Je passais de longues nuits debout sur mon oreiller, accroché aux barreaux de mon lit cage, à regarder fixement mon père et ma mère, comme si j'avais le projet d'écrire sur eux une étude zoologique. Ils en ressentaient un malaise grandissant. Le sérieux de ma contemplation les intimidait au point de leur faire perdre le sommeil. Les parents comprirent que je ne pouvais plus dormir dans leur chambre. On déménagea mes pénates dans un genre de grenier. Cela m'enchanta. Il y avait un plafond inconnu à examiner, dont les fissures me parurent d'emblée plus expressives que celles dont j'observais les méandres depuis 2 ans et demi. Il y avait aussi un fatras d'objets à interroger des yeux, des caisses, des vieux vêtements, une piscine gonflable dégonflée, des raquettes pourries et autres merveilles. Je passais de fascinantes insomnies à imaginer le contenu de ces cartons. Il devait être très beau pour qu'on le cache si bien. Je n'aurais pas été capable de descendre du lit cage pour aller regarder. C'était trop haut. Fin avril, une magnifique nouveauté bouleversa mon existence. On ouvrit la fenêtre de ma chambre pendant la nuit. Je n'avais pas le souvenir d'avoir dormi fenêtre ouverte. C'était prodigieux. Je pouvais guetter les bruissements énigmatiques qui s'échappaient du monde ensommeillé, les interpréter, leur donner un sens. Le liquage était installé le long du mur, en dessous de la fenêtre mansardée. Quand le vent écartait les rideaux, je voyais le ciel zinzolin. La découverte de cette couleur me coupa le souffle. Il était réconfortant d'apprendre que la nuit n'était pas noire. Mon bruit préféré était l'aboiement lancinant et lointain d'un chien inidentifiable que je baptisais Yorukoe, la voix du soir. Ses geignements indisposaient le quartier. Il me charmait comme un chant mélancolique. J'aurais voulu connaître la raison d'un tel désespoir. La douceur de l'air nocturne coulait par la fenêtre et se déversait droit dans mon lit. Je la buvais. Je m'en saoulais. J'aurais pu adorer l'univers rien que pour cette prodigalité de l'oxygène. Mon ouïe et mon odorat fonctionnaient à plein régime pendant ces fastueuses insomnies. La tentation de me servir de la vue n'en était que plus forte. Ce hublot au-dessus de moi était une provocation. Une nuit, je ne pus résister. J'escaladai les barreaux du lit cage le long du mur, je levai les mains aussi haut que possible, elles purent rattraper le bord inférieur de la fenêtre. Grisée par cet exploit, je parvins à hisser mon corps débile jusqu'à cet appui. Juché sur mon ventre et mes coudes, je découvris enfin le paysage nocturne. J'exultai d'admiration face aux grandes montagnes obscures, aux toits lourds et majestueux des maisons voisines, à la phosphorescence des fleurs de cerisier, au mystère des rues noires. Je voulus me pencher pour voir l'endroit où Nishio-san pendait le linge, et ce qui devait arriver arriva, je tombai. Il y eut un miracle. J'eus le réflexe d'écarter les jambes et mes pieds restèrent accrochés aux 2 angles inférieurs de la fenêtre. Mes mollets et mes cuisses étaient allongés sur le léger rebord du toit, mes hanches reposaient sur la gouttière, mon tronc et ma tête pendaient dans le vide. Le premier effroi passé, je me trouvais plutôt bien à mon nouveau poste d'observation. Je contemplais l'arrière de la maison avec beaucoup d'intérêt. Je jouais à me balancer de gauche à droite et à me livrer à l'étude balistique de mes crachats. Au matin, quand ma mère entra dans la chambre, elle poussa un cri de terreur. Au-dessus du lit vide, il y avait la fenêtre au rideau écarté et mes pieds de part et d'autre. Elle me souleva par les mollets, me ramena intramuros et m'administra la fessée du siècle. On ne peut plus la laisser dormir seule, c'est trop dangereux. On décréta que le grenier deviendrait la chambre de mon frère et que je partagerais désormais celle de ma sœur à la place d'André. Ce déménagement bouleversa ma vie. Dormir avec Juliette exalta ma passion pour elle. Je partageais sa chambre pendant les 15 années qui suivirent. Désormais, mes insomnies servirent à contempler ma sœur. Les fées qui s'étaient penchées sur son berceau lui avaient donné la grâce de dormir, mais aussi la grâce tout court. Nullement dérangée par mon regard fixe, elle sommeillait en un calme qui forçait l'admiration. J'appris par cœur le rythme de son souffle et la musicalité de ses soupirs. Personne ne connaît aussi bien le repos d'un autre. 20 années plus tard, je lus ce poème d'Aragon en frissonnant. Je suis rentrée dans la maison comme un voleur. Déjà, tu partageais le lourd repos des fleurs. J'ai peur de ton silence et pourtant tu respires. Contre moi, je te tiens, imaginaire empire. Je suis auprès de toi le guetteur qui se trouble à chaque pas qu'il fait de l'écho qui le double au fond de la nuit. Je suis auprès de toi le guetteur sur les murs qui souffre d'une feuille et se meurt d'un murmure au fond de la nuit. Je vis pour cette plainte à l'heure où tu reposes. Je vis pour cette crainte en moi de toute chose au fond de la nuit. Va dire, ô mon gazelle, à ceux du jour futur, qu'ici le nom d'Elsa seul est ma signature au fond de la nuit. Il suffisait de remplacer Elsa par Juliette. Elle dormait pour nous deux. Au matin, je me levais, fraîche et dispose, reposée par le sommeil de ma sœur.